Sculpture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Les Shadok malades étaient recyclés d'Ardar par ordinateur pour se faire réinjecter les bonnes manières de la grammaire. Premièrement, Éprimou, tout mot Shadok qui ne veut rien dire ne peut pas dire deux fois de suite la même chose. Secondo, et en plus, il est interdit de déposer des points d'interrogation, d'affirmation, d'appréciation, d'exécution ou de n'importe quoi devant toute proposition constituée par une passoire après 10 heures du matin. Tout génitif, qualificatif, cumulatif ou déponent, ayant eu des rapports avec son complément, prend un point virgule au pluriel, sauf si c'est un hibou, un genou, un joujou ou un pou.
Le phrasé unique de Claude Pieplu pour nous raconter, nous aider à être au fait de la grammaire Shadok. Bonjour Rachid Santaki.
Bonjour Olivia.
Il est l'heure de votre dictée. La dictée, un exercice pour tous, comme un jeu, un défi qu'on se lance à soi-même, renouer avec les mots, l'orthographe, sans contrainte ni regret. La correction sera, comme chaque semaine, en ligne juste après, ainsi que la copie de notre invité. À la dictée, aujourd'hui, le lexicologue Jean Pruvot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous êtes l'auteur de la story de la langue française, si j'oublie pas le mot essentiel, ce que le français doit à l'anglais et vice versa, un ouvrage qui vient de paraître chez Talendier. C'est une histoire des apports, des emprunts, des transferts d'une langue à l'autre, ou comment l'anglais et le français se sont nourris jusqu'à l'avènement du globish. Se challenger, par exemple, on a le droit de le dire. Ça, c'est un mot qui est autorisé, se challenger.
C'est un mot qui est français au départ, qui passe en Angleterre et qui nous revient. Alors bon, on peut de temps en temps être un peu inquiet qu'il y ait trop de mots anglais déformés, mais après tout, la prononciation challenge, c'était celle du Moyen-Âge.
Ah, et donc quand on sait que ça vient de chez nous avant d'être parti là-bas pour revenir ici, cet effet ping-pong, ou boomerang plutôt, on se sent un peu plus autorisé quand même à utiliser certains mots.
Oui, sans abuser.
Sans abuser.
Quand même, j'essaie de mettre en avant parfois une bonne langue. Quand j'entends la Bridal Fashion Week, bon, je préférerais qu'on parle de
la semaine de la mode.
Semaine, voilà, de la mariée et de la mode. Donc, il y a des excès qui sont à démontrer, mais il y a aussi un transvasement énorme de plus d'un millier de mots en Angleterre, derrière Guillaume le Conquérant. Et puis finalement, aujourd'hui, si on prend 60 000 mots, il y a 65% de mots anglais qui sont français, et parfois même des mots du Moyen-Âge qu'on a oubliés. Donc c'est très intéressant de raconter ça, le fait qu'après avoir donné énormément de mots français aux Anglais, on en a pris aussi. Déformé parfois. La riding coat qui devient la redingote, ça me plaît bien. Le paquet de bottes qui devient le paquebot, ça me plaît aussi. Bon, après, d'autres mots comme la conf call, on peut peut-être trouver autre chose.
Oui, là, les mots de la novlangue managériale sont moins exotiques aujourd'hui.
C'est vrai.
Ils nous intriguent beaucoup moins. L'anglais, un tiers au moins de son vocabulaire serait d'origine française. C'est plus qu'un petit emprunt. Quelles sont les grandes années de ce trafic de mots? Vous l'évoquiez dans le sillage de Guillaume le Conquérant. Beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. Des histoires d'influence, des histoires de mots. C'est dans ce livre, Jean Pruvot, que vous éditez chez Talendier, la story de la langue française. Mais pour l'heure, il va falloir travailler sur les mots d'un autre, ceux de Flaubert. Aujourd'hui, quelle dictée, quel texte, quel extrait avez-vous choisi, Rachid Santaki?
J'ai choisi un extrait de Madame Bovary, Gustave Flaubert. J'étais tenté de prendre un extrait du roman de Victor Hugo, 93, mais Jean s'est déjà penché sur cette dictée.
Ah, vous l'avez déjà fait bosser?
Exactement.
Il vous connaît. Et vous le connaissez?
En un lieu formidable, c'était à Saint-Denis, au pied de la basilique et au pied de la mairie où ma grand-mère avait travaillé. Donc, il y avait, je m'en souviens, 982 personnes qui étaient là sur la place du marché à faire cette dictée. C'était très émouvant.
De tous les âges?
Oui.
Alors, comment ça va se passer cette dictée, Rachid?
Donc, je vais effectuer trois lectures. Une première lecture pour vous familiariser avec le texte. Ensuite, deuxième lecture, vous pencherez sur votre copie.
Pour travailler le poignet.
Exactement, le poignet, se poser des questions également sur certains mots. Et enfin, une troisième lecture avec Olivia pour revenir sur les éventuelles difficultés de ce texte.
Voilà pour les règles, le rappel des règles, Maître Santaki. On va passer tout de suite à la dictée si vous êtes prêt. Monsieur Pruvot, première lecture.
Première lecture. C'est un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres. Et Emma, poursuivait la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée dans une haie d'épines. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer, car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe, et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui, sur l'escabeau, dans la cheminée, quand elle faisait brûler le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient. Elle se rappela des soirs d'été tout pleins de soleil. Point final.
Merci pour cette première lecture. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que la feuille est sortie? Est-ce que le stylo est en main? Est-ce que le poignet est délié?
Ah, ça, peut-être pas assez.
Bon, la concentration est intense. Eh bien, on peut commencer.
Très belle et bonne dictée, cher Jean, et à toutes nos auditrices et auditeurs. Elle resta quelques minutes. Elle resta quelques minutes à tenir. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts. Entre ses doigts, ce gros papier. Point. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Point. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, virgule. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, virgule. Et Emma, les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, virgule. Et Emma poursuivait. Et Emma poursuivait la pensée douce. Et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetait tout au travers. Je répète, et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée au travers comme une poule à demi cachée dans une haie d'épines. Point. Dans une haie d'épines. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. On avait séché l'écriture. On avait séché l'écriture. Avec les cendres du foyer, virgule. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer, virgule. Car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe, virgule. Car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe, virgule. Et elle crut presque apercevoir, et elle crut presque apercevoir son père, se courbant, et elle crut presque apercevoir son père, se courbant vers l'âtre, et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Point. Et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Point.
C'est pas tout à fait fini, mais vous êtes très silencieux. Tout va bien, le
oui,
rythme.
Oui, je crois.
Comme il y avait longtemps.
Si ça se trouve, c'est Truffaut de faute.
Mais... Oui.
Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui. Qu'elle n'était plus auprès de lui, virgule. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui, virgule. Sur l'escabeau, virgule. Auprès de lui, virgule. Sur l'escabeau, virgule. Dans la cheminée, virgule. Dans la cheminée, virgule. Quand elle faisait brûler. Le bout d'un bâton. Quand elle faisait brûler le bout d'un bâton. À la grande flamme. Des joncs marins. Des joncs marins qui pétillaient, point d'exclamation. Je répète dans la cheminée, virgule, quand elle faisait brûler le bout d'un bâton à la grande flamme, des joncs marins qui pétillaient, point d'exclamation, suivi de point de suspension. Donc point d'exclamation, une autre ponctuation, point de suspension. Elle se rappela. Des soirs d'été, tout plein de soleil, point final.
Jean Pruvot, niveau de difficulté pour vous de cette dictée?
Peut-être paraître prétentieux, elle me paraît pas difficile, mais bon, peut-être que j'ai fait des fautes salaires, mais non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés. En revanche, il y a des mots passionnants.
La langue de Flaubert, vous l'aimez?
Oui, je l'aime beaucoup, parce que, bon, vous savez, c'était Madame Bovary, c'est moi, c'était le grand cri de Flaubert, et il se voulait donc le premier des réalistes, et ça a été un effort pour lui, hein. Il souhaitait véritablement quitter le romantisme pour devenir réaliste. Et il a donc décrit, et en décrivant et les sentiments et le moindre détail, et d'ailleurs il y avait une formule qui me revient, j'étais prof de lettres donc je m'en souviens un petit peu, qui était le petit détail qui fait vrai. Et c'est chez Flaubert qu'on a ça, ce petit détail qu'il ajoute ici, les pincettes, la cendre, et ce sont ces petits détails qui font vrai, et qu'on ne trouvait pas forcément dans le romantisme, où au contraire, il y avait un élan, il fallait avoir l'esprit dans la tempête, et dans finalement le moi profond. Donc j'aime beaucoup, comme j'aime le romantisme, hein, mais il y a une unité, il y a une cohérence chez Flaubert.
Alors, on va relire ce texte en tentant d'éclairer les mots, les questions qui pourraient se poser avec vous, Jean Pruvot. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Pas trop de difficultés sur cette première phrase. Doigt, D-O-I-G-T-S.
Oui, sont on au trouve pluriel. Racine, hein, digital. Mes doigts, dès oui, j'étais, c'est une difficulté, effectivement, pour les enfants, je le comprends.
En revanche, une fois qu'on le sait, ça ne bouge pas, ça ne change pas. C'est toujours, du coup, agréable de l'apprendre. Les fautes d'orthographe, tiens, comment on écrit orthographe? Ça, c'est, c'est alors, peut-être un des mots les plus difficiles.
On va tout de suite dédouaner les élèves qui ont fait une faute, parce que quand on prend nos premiers dictionnaires, celui de Richelet, il l'écrivait sans H. Donc en 1680, le premier dictionnaire français-français, il n'y a pas d'H. Mais dès le deuxième, celui de Furetière en 1690, qui faisait partie de l'Académie, et dès le troisième avec l'Académie française en 1694, là il y a un H. Et c'est définitif. Mais une fois qu'on a retenu ortho, qui veut dire droit, qu'on va retrouver dans orthopédiste, on comprendra que c'est l'écriture normée, droite, la bonne. Bon.
Voilà, et Flaubert ne s'y s'est pas trompé. Orthographe, O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-E. Les fautes, F-A-U-T-E-S. Hein. Alors, si enlacer les unes aux autres, enlacer peut-être une difficulté pour certains, deux S, c'est
oui, alors la possibilité de le confondre avec le verbe se lasser et la deux S. Mais il faut toujours remonter à la racine. Se lasser, c'est on est là, L-A-S, donc on se lasse de quelque chose. Tandis que là, c'est comme les lacets de la chaussure, on en lasse, et donc on bloque ses lacets, donc C-A-I-E-N-T.
Voilà, E-N-L-A-C, c'est dit A-I-E-N-T, les unes aux autres, virgule. Et Emma poursuivait, A-I-T, la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée. Caquetée. C'est donc le son, le gloussement de la poule.
Alors bon, c'est vraiment ce qu'on appelle une onomatopée, c'est-à-dire qu'on reprend le son.
Des basses de la basse cour. Hein.
Bon, la poule, caquette, c'est son rôle.
Et ça s'écrit C-A-Q-U-E. T-A-I-T en l'espèce, puisque nous en sommes là, la pensée douce qui caquetait tout au travers, comme une poule à demi cachée. Trait d'union ou pas entre demi et caché?
Alors moi j'en ai mis un, pense qu'il y en a un.
Eh bien Flaubert n'en a pas mis un.
Je pense qu'il n'y a pas deux, bien sûr, puisque c'est devant. Mais le trait d'union, moi, il semble, s'impose.
Pas aux yeux de Flaubert. Oui. Alors, Rachid Santaki ne fait pas la liaison, mais c'est dans une haie d'épines, D-A-N-S, une haie, oui. H-A-I-E,
H-A-I-E.
Hein, ne pas oublier le H, d'épine. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas?
Ah oui, à mon avis, il y en a plusieurs. Oui.
Donc vous mettez un S à épine. Oui, épine, oui. Pas de difficulté, E-P-I-N-E-S. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer. Sécher, c'est avec un S, hein, peut-être la seule difficulté, S-E-C-H. Et l'écriture avec les cendres, avec un C. Car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe. Et elle crut presque apercevoir son père. Alors, cru, ne pas confondre avec l'adjectif cru.
Oui, bien sûr.
La crudité. Le cru. Donc, ici, c'est un verbe. Vous l'écrivez comment? Avec ou sans accent circonflexe?
Non, C-R-U-T. Parce que c'est tout simplement l'imparfait. Hein. Et alors, bon, le fameux piège habituel qu'on apprend tous à percevoir, bien sûr.
Un P ou deux P?
Eh ben un P, oui.
Pourquoi? Il y a une raison?
Alors, parce que c'est la contraction de « a », plus loin, « percevoir ». Donc, ça explique qu'il n'y ait pas deux « p ».
Voilà, « apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes ».« Âtre », « a », accent circonflexe,
oui, voilà, voilà.
« t-r-e ». Est-ce qu'un « h » aurait pu le précéder? Est-ce que...
Oui, alors la change de ce mot veut qu'il n'ait pas d'homonyme. Il n'y a pas un autre mot « âtre ». Ce n'est pas comme « o », « e », « a », « u », etc. Bon, ou « saut », « c », « a », « u », « saut ». Donc, une fois qu'on l'a retenu, alors moi, je retiens toujours la flamme au-dessus avec le « a ».
Pincette, P-I-N-C-E-T-E-S. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui, A-U-P-R-E-S, de lui, sur l'escabeau. Escabeau, peut-être.
Alors, escabeau...
Vous l'avez écrit comment, Jean Prouvot, l'escabeau?
En ancien français, c'était l'escabelle. Et tous les mots qui sont passés... en L sont devenus presque toujours en O, le portel, le porto, on a eu beaucoup de choses comme ça.
Non, bon, l'escabeau, vous l'écrivez comment du
coup? A-B-E-A-U.
D'accord, bon, pas comme l'escargot en fait.
Non.
Mais on aurait pu aussi hésiter. Dans la cheminée, quand elle faisait brûler, faisait F-A-I-S-A-I-T, brûler, B-R-U, accent circonflexe, L-E-R, le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient. Est-ce qu'il y a un mot, un niveau
alors,
de difficulté
bâton, c'est
vous.
Facile à retenir parce que il y a en vocabulaire familier la baston. On dit encore bastonner. Donc quand il y a un S qui disparaît, il y a un accent circonflexe qui s'installe le plus souvent à la place, donc avec un accent circonflexe.
Flamme, F-L-A-2-M-E, les joncs peut-être.
J-O-N-C-S.
C-S, avec ce C donc, qui ne s'entend pas.
Moi j'avais une difficulté, j'ai hésité un peu, mais peu de temps, sur qui pétillait. Parce que à la limite, la grande flamme peut aussi pétiller. Mais une femme qui pétille, elle pétille moins quand même que ces joncs qui pétillent. Donc j'ai mis le pluriel.
A-I-U-N-T.
Oui.
P-E-T-I, deux L, A-I-U-N-T. Elle se rappela des soirs d'été tout plein de soleil. Plein, vous mettez un S ou pas ?
Non, pour moi c'est un adverbe, donc j'en mets pas. Mais peut-être je me suis trompé.
Vous vous êtes trompé sur la dernière ligne, sur la dernière phrase. Bon. Rachid Santaki, bravo, merci Flaubert.
Il y a deux.
Le trait d'union que vous avez mis en trop entre demi et caché et maintenant ce plein.
Eh ben oui.
Ici, c'est un plein adjectif dans le sens de rempli.
On sait très bien l'édicter parce que comme ça, on note sur un petit carnet.
Exactement.
Et on fait plus l'erreur. J'aime bien le mot été aussi. Parce que ça vient de estuaire. L'estuaire était un lieu où bouillonnaient les choses. L'été, c'était torride en Italie, donc c'est de là qu'est venu le mot. Et l'estuaire, c'est un mot de la même famille, parce que ça bouillonnait aussi en entrant dans la mer, et la mer qui remontait.
Mille bravos, deux fautes, deux toutes petites fautes pour vous, Jean Pruvot, et plein d'explications à la clé pour nous. Merci pour cette science des mots.
D'habitude, j'ai les dictionnaires pour m'aider.
Ouais.
Là, pas de dictionnaire. Hein.
Vous vous sentez désarmé, et pourtant, vous avez une mémoire d'enfer, il faut quand même le dire, parce que vous n'aviez pas le texte auparavant. Le français, l'orthographe plus précisément, il a souvent mauvaise réputation, cet exercice aussi de la dictée. Vous sauriez nous expliquer pourquoi ?
Ça date non pas d'assez longtemps, d'il y a peu, puisque c'est surtout au 19e, au début du 19e, qu'avec les concours, alors qui étaient de la monarchie, mais qui étaient déjà les concours de l'État, qu'on va retrouver jusqu'au certificat d'études et jusqu'à nos concours aujourd'hui, un des critères, c'était l'orthographe. Mais si on prend le 16e ou le 17e siècle, l'orthographe, c'était l'affaire des imprimeurs, c'était pas vraiment celle des écrivains, et les écrivains faisaient bon nombre d'orthographes. On disait même, c'est Sainte-Beuve qui dit ça, que ces dames écrivaient un très bon français avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais ça n'avait pas d'importance. L'imprimeur était là. Et donc, on disait même qu'ils avaient un certain charme. Et quand on regarde les lettres de Louis XIV, par exemple, qui parlait un excellent français et qui écrivait vraiment avec beaucoup d'élégance, c'est truffé de fautes d'orthographe. Donc c'est arrivé avec le 19e. Et puis après, le certificat d'études a joué son rôle. Puisque c'était l'épreuve clé, évidemment. Et puis après, bon, il faut bien l'avouer, la radio, la télévision, le téléphone, d'autres moyens, les SMS, ont fait que il y avait différents moyens de communication où l'orthographe était plus forcément visible. Elle est encore visible, hein. Moi, j'entends beaucoup à la radio, ça m'énerve toujours un peu, 200 €, 300 €, 500 €, alors que c'est 500 €, 300 €. Donc l'orthographe, mine de rien, elle est aussi... on l'entend aussi. Oui.
Vous lui avez consacré une entrée dans votre dico des dictionnaires qui trône sur cette table, comme quoi vous n'êtes pas venu avec un dictionnaire, mais avec un dico des dictionnaires.
Plusieurs livres.
Chez Jean-Claude Lattès, paru précédemment. Qu'est-ce que vous en dites de l'orthographe ?
J'explique que lorsque j'ai été surveillant, ensuite PEG dans les lycées d'enseignement professionnel d'histoire-géographie, et quand je me suis retrouvé inspecteur d'éducation nationale, dans la circonscription que j'avais, j'ai décidé de lancer des concours d'orthographe avec tous les élèves et des concours de calcul. Ça a été un succès extraordinaire. Les élèves étaient heureux, ils avaient des récompenses, et c'était souvent des élèves finalement dont les parents ne parlaient pas le français, qui étaient le plus attentifs à l'orthographe et qui avaient tenté de faire le moins de fautes d'orthographe possible. Je pense que l'orthographe, c'est toute une vie. C'est au début un peu contraignant, mais en fait, c'est toute une vie, ça doit être joyeux. Si on fait des fautes au début, c'est pas grave. Vous voyez, aujourd'hui, j'en ai fait une. Voilà, demain, j'en
deux
ferai plus.
Oh là
deux,
là.
Deux, oui.
Vous êtes dans le déni, surtout. Rachid Santaki, vous m'avez dit, Jean Prévost, il n'est pas lexicologue, il est...
Dicopathe.
Pourquoi ?
Dicopathe, parce que ce mot, je l'ai découvert, il m'a invité à
l'une de ces journées des dictionnaires où j'ai rencontré des gens incroyables qui écrivaient des dictionnaires sur des thématiques. Et j'ai effectivement découvert ce qu'étaient des dicopathes. Et Jean, effectivement, est un passionné. Mais un dicopathe, c'est vrai que ça peut faire peur. On peut se dire que c'est quelqu'un qui va être rigide sur la langue. Et quand on vous écoute, c'est plutôt une passion et une ouverture d'esprit.
Oui, puis je sais pas, j'essaye en tout cas. Mais par exemple, c'est un jeu. Je vois la story de la langue française. La story est en italique. Parce que la story, au départ, c'est un mot français qui s'écrivait S-T-O-R-I-E, qui venait de Estoria, Estori. C'est passé en anglais, ça nous revient avec un Y. Et donc, que les mots voyagent comme ça, ça a du charme. Et l'orthographe, et parfois le témoin d'une prononciation d'hier aussi. C'est pour ça que c'est compliqué.
1000 histoires, 1000 exemples à retrouver dans ce livre, La story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais, et vice-versa. Votre dernier livre, Jean Pruvot, vient de paraître chez Talendier.